Vous allez comprendre qu'on va faire un bout sur Donald Trump.
Oui.
Pour en parler, ça arrive occasionnellement, artiste invité dans la machine à café. Et j'ai nommé Luc Laliberté, qui est enseignant au cégep de Garneau. Il est chroniqueur politique et expert en politique américaine. Bon matin, Luc!
Ouais, bon matin et bonne année à tous vos auditeurs, bonne année à toute l'équipe.
C'est fin de t'entendre. Puis la dernière fois que t'es passé, t'as retenu beaucoup l'attention avec des propos extraordinaires, mais aussi, on savait pas que t'avais des talents de DJ pour présenter une toune.
Alors, ce matin, en direct de Dallaire le matin, une chanson qui plaît à l'auditoire puis qui risque de plaire grandement aux chroniqueurs qu'on a invités ce matin. High Road pour tout le monde.
Yeah! Wow! La marche est haute, là, Luc, là.
OK.
La marche est haute.
As-tu des offres de différents diffuseurs radiophoniques pour animer suite à cette intervention-là, Luc?
Ils vont...
Je pense que pour le moment, je vais encore rester à l'enseignement pour un bout.
Okay.
Hey, Luc, sérieusement, c'est le sujet sur toutes les lèvres. Puis on veut t'entendre là-dessus. Ça sort d'où l'histoire d'annexer le Canada, d'annexer le Groenland? Ah ouais, il y a le canal de Panama là-dedans. Ça sort d'où cette histoire-là?
Ah, écoute, c'est intéressant, mais ce qui complique la chose, c'est Donald Trump. Chaque fois que M. Trump lance une idée, il le fait de manière un peu brouillon, il le fait sans parler de contexte, sans lui-même expliquer nécessairement d'où ça vient. Mais ce que je trouve intéressant comme prof ou comme commentateur, c'est qu'il y a une base sérieuse là-dedans. Ou en tout cas, il y a une base qu'on peut tenter d'expliquer. C'est ce qui est fascinant avec ce personnage-là. Quand il regarde le Canada, Donald Trump, il voit le Canada un peu comme un homme d'affaires. Même chose quand il regarde le canal de Panama, même chose quand il regarde le Groenland. C'est comment je peux, il était dans l'immobilier à New York, comment je peux devenir plus gros? Et je ne regarde pas les moyens. En affaires, c'est drôle parce que je regardais le film The Apprentice hier, l'apprenti qu'on a fait justement sur Donald Trump. Et en affaires, grosso modo, c'est je vais pousser, hein, puis je vais prendre tous les moyens nécessaires, peu importe les lois, peu importe la morale ou l'éthique. L'idée, ça va être de m'imposer. Donc, c'est sa manière de faire, c'est sa façon d'agir. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais quand il propose cette idée, il regarde le continent au grand complet. Il sait qu'à l'étranger, les États-Unis sont moins forts qu'ils l'étaient auparavant. C'est beaucoup plus facile pour lui de dire, si je veux augmenter mon influence, ben regardons l'Amérique, puis regardons ce que ça nous coûte, regardons notre place en Amérique, puis est-ce que je peux en tirer un maximum de profit?
Okay.
Donc, dans l'histoire américaine, les Américains ont fait ça depuis le début. Mais rarement, à part des périodes de guerre, puis là, il faut remonter au 19e siècle, quand on arrache la moitié du Mexique au Mexique par la guerre, tout le sud-ouest des États-Unis, c'était le Mexique auparavant, ou c'était les Espagnols à l'époque coloniale. Donc là, Trump regarde le continent et dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Okay.
Et il y a dans ces deux mesures, historiquement, des choses que Trump n'est pas le premier à vouloir. Il regarde, par exemple, au plan économique, les États-Unis sont déjà le plus gros joueur dans le traité de libre-échange. Et dans sa tête, il peut tirer encore plus d'un traité de libre-échange, carrément, s'il engloutit le Canada. Donc, plus de droits de douane. Il se rend pas compte non plus que ce traité de libre-échange-là, les États-Unis sont ceux qui en tirent un maximum de profit actuellement. C'est toujours le plus gros joueur dans les négociations. Mais il dit, enlevons ça. On peut aller chercher les ressources du Canada. Ça fait longtemps que les Américains rêvent de ça. Ils en rêvaient quand c'était des colonies. Donc, ils regardent au plan économique. Ils regardent les ressources qu'on pourrait avoir ici puis que les Américains pourraient exploiter. Puis, ils regardent aussi des questions de sécurité. Et il a partiellement raison. C'est-à-dire qu'il aurait le contrôle total maintenant sur un territoire. Il aurait plus à se soucier du fait que le Canada fasse sa part ou pas. Ce qu'il dit, c'est, je regarde par exemple tout ce qui est au nord du continent. Avec le réchauffement climatique, on protège ou on souhaite protéger de plus en plus la zone arctique. Les Chinois et les Russes, ils sont déjà entre autres pays qui disent... faut contrôler cette région-là à laquelle on a maintenant accès plus aisément par bateau en raison de la fonte des glaces. Donc, Trump dit, le Canada n'a pas été à la hauteur dans plein de domaines. Donc, allons-y comme ça. J'augmente le territoire américain, j'augmente notre influence sur le continent et je vais chercher le Canada.
Okay.
Donc, il y a des choses intéressantes là-dedans ou logiques. Historiquement, je répète, les Américains ont longtemps souhaité ça. Jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, on parlait de choses comme celle-là. Donc, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans l'ordre des choses, ben on a une relation avec les États-Unis qui est particulièrement bonne, malgré même avec la présence de Donald Trump, avec qui Justin Trudeau s'entend pas et s'entendait pas, on est quand même parvenu à négocier un certain nombre de choses pendant le premier mandat de M. Trump. Donc, c'est intéressant de le voir, c'est est-ce que ça se fait? Est-ce que ça respecte le droit international? Est-ce que ça respecte nos traités? C'est dans la faisabilité, c'est le côté pragmatique de la chose, mais que des Américains veuillent nos ressources, le territoire, ou encore assurer totalement la sécurité de leur territoire au plan stratégique,
ouais.
Ça sort pas de nulle part, mais c'est présenté tout croche.
Okay, ouais, c'est ce que tu disais. On est avec Luc Laliberté, qui est expert en politique américaine, dans notre machine à café, dans l'air le matin, 91.9 Québec. Rapidement, là, on doit-tu le prendre au sérieux ou pas? Il est-tu sérieux, là? Nous autres, on dit, on le compare à un garçon qui a eu son train électrique, là. Il joue avec son train, puis là, lâchez-moi tranquille, il veut son train, là.
S'il y a une chose que je retiens de 9 ans de couverture d'enseignement sur les États-Unis, mais de couverture de la politique américaine, donc dans les 9 dernières années, c'est ne jamais balayer sous le tapis ou du revers de la main une déclaration de Donald Trump. Il n'est pas reconnu pour son grand sens de l'humour. Habituellement, quand il dit quelque chose, ou en tout cas, il a un sens de l'humour qui est bien particulier, quand il dit une chose, c'est qu'il a quelque chose en tête. Est-ce que ça va prendre cette forme-là éventuellement? Moi, souvent, je le dis, au moins considérons ce qu'il a dit comme étant l'application de ce qu'il vendait dans son livre « The Art of the Deal ». C'est-à-dire que quand on négocie avec quelqu'un, l'idée, c'est de le pousser dans ses derniers retranchements continuellement. C'est une approche un peu d'intimidateur. Donc, c'est voyons jusqu'où les gens vont accepter de reculer dans les négociations. Puis après ça, bon, on parviendra à une entente. Mais il s'agit de jamais reculer puis de prendre tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Donc, on a vu ça dans le premier mandat de Donald Trump et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, ça pourrait être que ça. Donc, une stratégie de Donald Trump pour pousser le Canada et les dirigeants canadiens. En même temps, quand il embarque le canal de Panama, quand il embarque là-dedans le Groenland, moi, je vais demeurer vigilant. L'autre chose, c'est que Donald Trump, il y a quelque chose qu'il fait mieux que n'importe quel autre politicien, je pense, dans l'histoire récente, c'est envoyer les médias et les gens, leur tirer un os, puis les envoyer gruger ça pendant qu'on prépare autre chose. Et
ouais,
écoute, la dernière conférence de presse où il a parlé du Canada, puis il a parlé de Panama, puis il a parlé du Groenland, il a lancé un nombre de choses... c'est impressionnant tout ce qu'il a lancé pendant l'heure à laquelle il s'est adressé aux journalistes. Et là, les journalistes partent, les commentateurs comme moi partent, puis on essaie de valider tout ça. Mais pendant ce temps-là, on se concentre pas sur des sujets qui ont plus de chances de se réaliser. Donc, il est sur le point de revenir à la Maison-Blanche. Il a déjà tout un agenda qui est préparé. Son équipe est beaucoup mieux préparée elle-même qu'elle ne l'était pour le premier mandat. Donc, pendant qu'on jase du Canada, M. Trump planche ou son équipe planche sur autre chose. Et moi, c'est ça que je garde à l'œil.
OK, OK. On est avec Luc Laliberté. C'est la machine à café, le sujet dont tout le monde parle. Luc est expert en politique américaine. Écoute, Luc, mettons au-delà des allégeances, là, OK?
Oui.
Là, tu as parlé beaucoup des Américains qui désirent le Canada, mais nous, là, aurions-nous des avantages de devenir Américains? Tu sais, oublions toute allégeance politique, là. Est-ce qu'on aurait des avantages?
Écoute, quand je dis que ça a été présenté tout croche, c'est la limite de ce que je vais te dire. C'est-à-dire que c'est très difficile de voir, d'abord, c'est très difficile d'imaginer que le Canada entre comme un seul État aux États-Unis. Donc, ça changerait beaucoup trop de choses. Les Américains eux-mêmes ne voudraient pas ça, parce qu'il y a des règles du jeu. À moins de conquérir le Canada avec l'armée américaine, ce que je pense pas qu'il va se produire, faut que nous, on soit d'accord pour entrer aux États-Unis, faut qu'on fasse une demande. Et ensuite, faut que les Américains votent là-dessus. Les gens de Porto Rico, par exemple, sont bien d'accord pour devenir le 51e État. C'est les Américains qui veulent pas. Donc, est-ce qu'on accepterait le Canada en son entier? Est-ce qu'on diviserait le Canada en régions? Même là, je pense que les Américains ne voudraient pas qu'on fasse ça. Imaginons qu'on parvienne à faire ça. Imaginons que les Américains décident, on ouvre les portes, on les veut absolument, les Canadiens, au complet ou en partie, le séparer en régions. Faut savoir qu'à partir du moment où on devient Américain, ce qu'on voit actuellement aux États-Unis, ça deviendrait notre situation. Est-ce que cette situation-là, c'est celle qu'on veut pour le Québec ou pour le Canada? C'est une chose. Ensuite, imaginons le Canada qui entre dans les États-Unis comme étant un seul État. On devient un joueur parmi 51. Donc, c'est déjà beaucoup de choses. Là. Le Rhode Island, la Californie ou l'Oklahoma, on serait un de ces joueurs-là, le Canada. Un gros joueur, là, on a la taille de la Californie à peu près. Donc, on deviendrait un gros joueur, mais on n'est qu'un joueur parmi 51. L'autre chose, et c'est peut-être là où c'est plus difficile à exprimer concrètement, la Constitution américaine deviendrait notre Constitution. Donc, est-ce qu'on serait en mesure, le Canada dans l'ensemble, incluant le Québec, qui serait encore plus petit qu'il l'est présentement, là, si on entre le Canada, écoute, il y a fort à parier que c'est Ottawa qui devient la capitale de tout le monde dans l'État du Canada. Là. Donc, on est encore plus loin en termes de pouvoir, le Québec. Mais est-ce qu'on serait capable au Québec de préserver tous nos acquis? Donc, on a une culture qui est largement différente de la culture américaine. Puis ça implique, entre autres, chez nous, qu'on accepte que l'État... Nous, on se chicane sur, essentiellement, quand on parle du gouvernement, est-ce que le gouvernement gère bien nos sous? Est-ce qu'on en a pour notre argent? Mais on accepte, en général, de dire, parce qu'on veut des services pour tout le monde, on accepte de mettre la main dans notre poche puis de payer des impôts. On trouve qu'on en paie trop. Souvent, on a raison, je pense. Puis, est-ce que c'est bien dépensé? Ça, c'est la grande question. Mais on est d'accord pour dire qu'il y a une redistribution, quelque part, de la richesse pour prendre soin de tout le monde. Je vulgarise, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on est capable de garder tout ça? Est-ce qu'au plan culturel, la question de l'avortement, par exemple, les États américains ont un certain nombre de pouvoirs, mais est-ce qu'on est capable de garder ça dans un grand ensemble avec la Constitution américaine? Donc, on devient un bien plus petit joueur qu'on ne l'a jamais été et on est culturellement très différent. Même les États avec lesquels on est plus familier la plupart du temps. Quand on regarde les voyages qu'on fait, on va aller, j'adore aller sur la côte ouest, par exemple. Je suis allé à Hawaï, j'adore les États de la côte est, là, du nord au sud. Mais au-delà de ces États-là où on se sent un peu plus à l'aise, qu'est-ce qu'on a en commun culturellement avec le reste de ce grand pays-là? J'aime beaucoup les États-Unis, mais je suis très confortable à la maison. J'aime bien le Québec. Donc, qu'est-ce qu'on gagne, puis qu'est-ce qu'on met en jeu ou qu'est-ce qu'on risque? Parce que les gens pensent souvent à court terme en disant, ben moi, je vais passer l'hiver en Floride ou dans un État américain où la température est plus clémente. Je vois que souvent, ils paient beaucoup moins d'impôts que nous. C'est sûr que si on regarde ça à court terme et à courte vue, peut-être que c'est ça qu'on voudrait aussi à long terme. Mais la plupart du temps aux États-Unis, si vous êtes riche, ça va bien se passer. Si vous avez déjà pas mal d'argent, vous avez les moyens de vous offrir les services qu'ici, parfois, l'État offre au Québec, mais qu'on n'offre pas aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on est capable de garder tous nos acquis en payant moins de taxes, en payant moins d'impôts? Calcul est assez facile à faire, d'après moi. Ouais. Mais voilà, la tentation peut être là. On a eu dans l'histoire canadienne et au Québec, on a eu ce qu'on appelle des annexionnistes. Ça remonte même au 19e siècle. C'est des gens qui encourageaient l'annexion aux États-Unis. Ça n'a jamais rejoint un grand nombre de gens, puis on n'a pas des sondages à chaque année, mais en très grande majorité, les Canadiens et les Québécois, on dépasse rarement entre 10 à 15% de gens qui voudraient être annexés aux États-Unis. Okay. Donc, ça répond en partie à la question.
En grande partie, Luc.
Voilà, donc je pense qu'on ne veut pas aller vers les États-Unis, parce que même si, imaginons qu'on soit indépendantiste, même si on est parfois très inconfortable à l'intérieur du Canada, on partage quand même plus de choses à la base avec le reste du Canada qu'on en partage avec la totalité des États-Unis.
Voilà. Il s'appelle Luc Laliberté. Il est enseignant au Cégep Garneau. C'est un expert en politique américaine. C'est un gars qu'on apprécie, puis on pouvait pas faire le tour mieux que ça. Luc, merci pour ces dernières minutes. C'est vraiment faut l'apprécier. Nous allons placer ça dans la section réécouter de notre émission. Ça va vous donner une chance de vous faire une tête là-dessus. Mais! Moi, j'ai comme pris goût... J'ai comme pris goût au côté DJ de Luc Laliberté.
Ah, c'est talent d'animation.
Ouais, ça serait l'heure de présenter la prochaine tune, mon cher Luc.
Écoute, les États-Unis sur la scène internationale, c'est encore un des gros joueurs qu'on pourrait comparer à un monstre. Il n'y a rien de mieux que j'imagine que la tune d'Eminem, The Monster. Alors, sur les ondes de Weeknd ce matin, The Monster.
Wouhou!